VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mercredi 8 juillet 2015. Morgane à la une ce soir.
En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers, dont des proches de Ouattara, ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Rwanda, l'opposition présente un recours contre un projet de modification de la Constitution, projet qui permettrait au président de briguer un troisième mandat.
Affrontement intercommunautaire en Algérie, on compte désormais 22 morts à Gardaïa.
Au Maroc, les 5 jeunes arrêtés à Marrakech risquent la prison pour ne pas avoir respecté le jeûne du Ramadan.
Et puis le New York Stock Exchange suspend à la mi-journée tous ses échanges à Wall Street.
Voilà, et dans moins de 10 minutes, hein, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Une nouvelle attaque au Tchad. Des combattants suspectés d'appartenir à l'organisation islamiste Boko Haram auraient tué 26 personnes au cours du week-end dans deux villages longeant le lac Tchad. C'est ce que rapporte Reuters, citant un officiel sous couvert d'anonymat.
Au Nigeria, le bilan de deux explosions de dimanche à Jos s'est alourdi. L'Organisation nationale de gestion des urgences compte désormais à 51 le nombre de morts. Boko Haram est suspecté d'avoir perpétré ses attaques contre une mosquée et un restaurant à quelques minutes d'intervalle.
Et selon des informations en provenance de Gedo, dans le sud-ouest de la Somalie, les troupes éthiopiennes ont traversé la frontière pour entrer en Somalie en nombre important dans les dernières 48 heures, craignant des représailles. Des résidents locaux et des témoins ont affirmé au service somalien de la VOA qu'au moins 3000 soldats éthiopiens munis d'armes lourdes, dont des chars, ont été aperçus à Luk, une ville dans la province de Gedo, dans le sud-ouest de la Somalie.
Et à Nairobi, la capitale du Kenya, plusieurs dizaines de manifestants étaient réunis pour réclamer aux États-Unis le versement d'indemnités aux victimes de l'attentat de 1998 contre l'ambassade américaine. Président Obama, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas, pouvait-on lire sur les pancartes, alors que le chef de l'exécutif américain est attendu dans les deux semaines au Kenya, indique l'AFP.
Le principal parti d'opposition rwandais a présenté aujourd'hui devant la Cour suprême un recours contre un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat de 7 ans. Le point avec Camille Gros-Didier.
Selon Reuters, la séance a été ajournée au 29 juillet, l'avocat représentant le Parti démocratique vert du Rwanda n'étant pas venu à l'audience. Le secrétaire général du parti, Jean-Claude Nsezimana, aurait déclaré que les avocats avaient peur de prendre en charge le dossier. Le Parti démocratique vert estime que le maintien d'une limite de 2 mandats présidentiels consécutifs garantira une transition démocratique. Il s'est déjà prononcé par le passé pour une réduction de la durée du mandat du chef de l'État, actuellement de 7 ans, à 4 ou 5 ans. Toujours selon Reuters, de hauts responsables du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, réclament la suppression de cette limite. Le Parlement compte débattre de pétitions publiques appelant Kagame à rester après l'expiration de son mandat en 2017. Le chef de l'État se dit opposé au changement, mais prêt à se laisser convaincre.
Audition ce mercredi à Ouagadougou de l'ancien homme fort de Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, est entendu au palais de justice de la capitale burkinabé par les juges en charge de l'enquête sur l'affaire du 28 septembre 2009. Une audition discrète, sans déclaration à la presse à la sortie. Moussa Dadis Camara a pu regagner son domicile.
En Algérie, 19 personnes blessées hier dans des affrontements communautaires dans la région de Gardaïa sont décédées. C'est ce qui porte le nombre de morts à 22 en 2 jours dans ce secteur du sud algérien, théâtre depuis fin 2013 de heurts récurrents. Jean-Roger Bion.
On compte aussi des dizaines d'autres blessés dans ces affrontements entre Berbères et Arabes, selon APS cité par l'AFP. Il s'agit du plus lourd bilan enregistré dans cette région de la vallée du Mzab, où des affrontements surviennent régulièrement depuis 2 ans et demi. Les nouvelles violences ont eu lieu notamment dans les localités de Guérara et de Biriane, de même que dans la ville de Gardaïa, à 600 km au sud d'Alger. Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bédoui, s'est rendu sur place selon l'APS. Les affrontements se poursuivaient mercredi. Ils ont été marqués par des incendies et des destructions de locaux commerciaux, de véhicules de particuliers, des palmeraies, du mobilier urbain et des édifices publics selon APS. C'est en début juillet que les heurts ont repris, ce qui a entraîné le déploiement de forces anti-émeutes dans la région.
Et nouvelle violence dans le Sinaï, en Égypte. Un obus de mortier est tombé sur une maison dans le nord de la péninsule où l'armée combat les djihadistes. 5 civils ont été tués d'après les autorités. Pour l'heure, on ne sait pas qui, des militaires ou des insurgés, a tiré le coup. 4 personnes ont également été blessées dans sa chute. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement se réunit aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi antiterroriste controversé. C'est ce qu'indiquent des responsables cités par l'AFP. Le texte prévoit notamment des peines de prison pour des journalistes contredisant les communiqués officiels.
Et la Tunisie a annoncé le projet de construction d'un mur le long de sa frontière avec la Libye pour contrer la menace djihadiste. Jacques Aristide.
Le gouvernement tunisien continue d'accroître les mesures de sécurité depuis l'attentat de Sousse, une attaque qui a poussé la Tunisie à déclarer l'état d'urgence le mois dernier. Le tireur, qui a tué 38 personnes dans cette station balnéaire, est soupçonné d'avoir reçu une formation en Libye. D'où l'idée d'ériger ce mur d'environ 160 km et qui servira de barrage sur la frontière entre la Tunisie et la Libye, s'étendant de la ville de Ras Jedir à celle de Deiba, telle que l'a révélé le Premier ministre tunisien. Le projet qui vise donc à endiguer la menace terroriste doit être achevé fin 2015, selon Habib Essid. Pour sa part, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, a déjà annoncé le déploiement de plus de 1400 militaires dans les zones sensibles, y compris les plages et les hôtels sur le littoral du pays. Désormais, les autorités peuvent également interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre. Un projet de loi antiterrorisme débattu au Parlement depuis début 2014 doit être voté dans les semaines à venir.
Et du nouveau sur le sort des 5 jeunes Marocains arrêtés à Marrakech pour n'avoir pas respecté le jeûne du Ramadan, eh bien le parquet a décidé de poursuivre les 5 accusés. Ils seront donc jugés, indique l'association marocaine des droits de l'homme citée par l'AFP. Et nous reviendrons dans la seconde partie de notre émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un tribunal irakien a condamné aujourd'hui à la peine de mort par pendaison 24 des 28 accusés pour le massacre par des djihadistes et leurs alliés de centaines de recrues en majorité chiite. Le massacre de Spicher, comme on l'appelle, a eu lieu en juin 2014 à Tikrit, au nord de Bagdad, du nom de la base militaire où les victimes avaient été enlevées avant d'être exécutés. Les 24 hommes ont nié toute implication dans le massacre commis au premier jour d'une offensive fulgurante de l'EI en Irak.
La Grèce a demandé à ses voisins européens un nouveau plan de sauvetage de 3 ans ce mercredi, promettant de mettre en œuvre immédiatement les réformes de la fiscalité nationale et du système de retrait. Nathalie Barge.
Dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg, le Premier ministre grec a déclaré qu'Athènes produira des nouvelles propositions concrètes d'ici jeudi. Alexis Tsipras a défendu la réticence de son pays à accepter de nouvelles mesures d'austérité. Au cours de ces 5 années, la pauvreté, le chômage et la marginalisation sociale ont grimpé en flèche, tout comme la dette publique, qui est maintenant de 180% du PIB, a déclaré M. Tsipras. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a estimé un accord possible d'ici dimanche, lors du sommet de l'Union européenne. Pour sa part, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a averti Athènes que l'échéance finale se termine cette semaine. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a brandi la menace d'un scénario de Grexit. Dans le pire des cas, la Grèce pourrait en effet être contrainte de quitter la zone euro et de revenir à son ancienne monnaie.
Voilà, et pour terminer, le New York Stock Exchange, principale plateforme boursière à Wall Street, a suspendu temporairement tous ses échanges. Claire Morangebourg, quelles sont les raisons qui ont été avancées ?
Les responsables de la bourse n'ont pas donné des raisons dans l'immédiat, mais les médias américains parlent de problèmes techniques. L'annonce a été faite peu après 11h30 heure locale, soit 15h30 temps universel. Le New York Stock Exchange avait dit dans la matinée enquêter sur d'éventuels problèmes techniques. Il y a eu des dysfonctionnements techniques, a rapporté Art Cashin, un responsable au New York Stock Exchange de la banque UBS, cité par la chaîne CNBC. Certains pourraient être liés à la connectivité avec d'autres plateformes, a-t-il ajouté. Les échanges continuaient néanmoins à Wall Street à la mi-séance, l'autre grande plateforme, le Nasdaq, fonctionnant normalement. On apprend que la Maison-Blanche a été informée et que le FBI va être impliqué dans la recherche des causes de cette suspension. Au moment de l'interruption, Wall Street était en nette baisse, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdant 1,15% à 17 573 points. Le Nasdaq, de son côté, perdait 1,39% à 4 927 points vers 16h10, temps universel.
Et selon l'AFP, des milliers de personnes ont entamé ce mercredi une marche pour la paix sur un trajet long d'une centaine de kilomètres qui fait emprunter en juillet 1995 dans le sens inverse par quelques 15 000 musulmans de Srebrenica, fuyant les forces serbes de Bosnie. Brandissant des drapeaux blancs frappés de fleurs de lys, les marcheurs vont traverser la forêt et collines pour arriver à Srebrenica vendredi, à la veille du 20e anniversaire du massacre.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est sur VOA Africa. Voilà, coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco et ce soir, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
L'Union européenne a doublé ses programmes d'aide pour les 16 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 1,15 milliard d'euros ont ainsi été débloqués dans le cadre du 11e Fonds européen de développement sur la période 2014-2020. Une partie importante des ressources affectées à la sécurité devrait être consacrée aux migrations. En Côte d'Ivoire, le métro devrait bientôt désengorger les embouteillages de la capitale. Le démarrage des travaux est prévu pour 2017. Abidjan devrait donc avoir ses premières rames de métro en 2019. Les précisions du ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré.
Abidjan, c'est vrai que la circulation est presque impossible aujourd'hui, mais nous avons de grandes ambitions pour Abidjan parce que pour résoudre l'épineux problème des embouteillages à Abidjan, il faut un système multimodal qui combine en même temps les secteurs routiers, lagunaires et ferroviaires. Au niveau du lagunaire, nous avons déjà libéralisé ces secteurs et donné déjà des autorisations à 3 sociétés qui vont démarrer les activités à la fin de cette année.
Gaoussou Touré, ministre ivoirien des Transports, il était joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
Voilà, c'était Claire Morin-Jibou pour la Minute Éco.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Tennis, tournoi de Wimbledon.
L'Écossais Andy Murray, numéro 3 mondial, a écarté mercredi le Canadien Vasek Pospisil en quart de finale en 3 manches, 6-4, 7-5, 6-4. Il se qualifie en 2h11 pour les demi-finales où il retrouvera Roger Federer. Le Suisse, numéro 2 mondial, s'est qualifié grâce à sa victoire contre le Français Gilles Simon en 3-7, 6-3, 7-5, 6-2. À bientôt 34 ans, le champion helvète jouera sa 37e demi-finale en Grand Chelem, la 10e à Londres où seul l'Américain Jimmy Connors a fait mieux que lui. Également détenteur du record des victoires en Grand Chelem, le Balois est toujours en course pour décrocher une 18e couronne majeure, la 8e sur le gazon londonien.
Argentine, première nation mondiale de football.
En dépit de sa défaite en finale de la Copa América face au Chili, l'Albicéleste devrait prendre la première place du classement FIFA à paraître ce jeudi au détriment de l'Allemagne, championne du monde en titre. Selon le simulateur en ligne mis à disposition par la FIFA sur son site internet, l'Argentine, qui était troisième du dernier classement, va faire un bond de 2 places. L'Albicéleste devrait compter 1436 points, soit une courte avance de 25 points sur l'Allemagne, qui paye ainsi sa défaite surprenante à domicile face aux États-Unis 2-1, c'était en match amical. La Belgique glisserait ainsi de la 2e à la 3e place. Le classement de jeudi aura une grande importance car il déterminera pour la zone Europe les 9 têtes de série pour le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2015.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Kouré, Morgan Guiriek en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers de l'armée ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Ces inculpations, notamment celles concernant des chefs rebelles ayant soutenu le président Alassane Ouattara, constituent une avancée majeure pour la justice ivoirienne, selon la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui se félicite du rééquilibrage des poursuites. L'opposition et la société civile dénonçaient jusqu'alors la justice des vainqueurs en vigueur en Côte d'Ivoire, où 5 mois de crise post-électorale née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara avait fait plus de 3000 morts en 2010-2011. Claire Morin-Gibourg a joint Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH.
Évidemment, le moment intervient à quelques mois des élections, on ne peut pas l'éluder. Alassane Ouattara a besoin de démontrer qu'il a un bilan en matière de justice avant les élections. Mais même si on trouve que ces avancées sont tardives par rapport à l'enquête, à ces 5-6 ans qui sont déjà passés par rapport aux faits, il n'en demeure pas moins que le principal, c'est que ces avancées sont réalisées et qu'elles doivent encore aller jusqu'au bout, jusqu'à leur terme. Et puis, ce qui est très important, c'est le fait que les victimes puissent participer à ces procédures judiciaires, puisque jusqu'à présent, vous vous souvenez du procès de Simone Gbagbo et d'autres pour atteinte à la sûreté de l'État, il n'y avait pas de victimes. Il n'y avait que de victimes l'État. Et donc, dans les procédures qui sont en cours, les victimes seront parties civiles aux côtés de nos organisations. Et ça, c'est l'aspect fondamental qui doit prévaloir pour aller jusqu'au bout de ces procédures judiciaires.
Ces chefs de guerre vont-ils être jugés en Côte d'Ivoire ou extradés devant la Cour pénale internationale ?
Alors, la Cour pénale internationale enquête sur la situation en Côte d'Ivoire, aussi bien du côté des pro-Gbagbo que des SRCI, des pro-Ouattara. Il est certain que la justice ivoirienne, en avançant de la sorte, tente de démontrer qu'elle a non seulement la volonté, mais aussi la capacité de poursuivre ces chefs de guerre présumés qui sont accusés d'avoir commis des crimes extrêmement graves. La question se pose quant à la possibilité de voir la Cour pénale internationale se saisir de ces dossiers, de ces chefs rebelles. La position de la FIDH et de nos organisations membres, c'est de dire que la Cour pénale internationale n'a toujours été qu'un recours en cas d'impossibilité par les justices nationales de juger. Et que si la Cour pénale internationale parvient par la pression qu'elle met à faire en sorte que la justice ivoirienne juge de façon correcte, équitable et jusqu'au bout et les plus hauts responsables, dans ces cas-là, la Cour pénale internationale n'aura peut-être pas intérêt ou vocation à juger ses responsables, ses plus hauts responsables. Par contre, si ces procès sont des procès qui tendent à menuiser les crimes commis par ces individus ou à les exclure de leurs responsabilités, par exemple en déclarant une amnistie ou par exemple aussi en minimisant leur peine, alors la Cour pénale internationale aura encore tout son rôle à jouer dans cette affaire. Mais l'objectif principal de notre action, c'est que justice soit faite, que ce soit par la justice nationale, c'est l'objectif premier, le cas échéant par la Cour pénale internationale qui demeure dans ces cas-là le dernier recours et doit le rester.
Florent Gel, responsable Afrique à la Fédération internationale des droits de l'homme.
Voilà, et on reste toujours en Côte d'Ivoire et bientôt le métro pour désengorger la circulation à Abidjan, la deuxième ville du pays. Le démarrage des travaux est prévu pour 2017. La mise en marche de la première phase devrait, quant à elle, avoir lieu en 2019 pour une exploitation totale en octobre 2020. Des précisions avec Gaoussou Touré, il est le ministre ivoirien des Transports.
Il s'agit d'un moyen de transport ferroviaire rapide à mettre en place que nous appelons métro d'Abidjan et qui doit desservir les zones d'Anyama jusqu'à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Trècheville et de Port-Boué sur une distance de 37,5 km.
Ah, le train urbain, ça doit coûter cher, monsieur le ministre. Qui sont les partenaires de la Côte d'Ivoire et combien va coûter cet ouvrage?
Bon, jusqu'à présent, les coûts ne sont pas encore terminés. Nous sommes toujours en discussion avec les partenaires, mais il faut compter au minimum 1 milliard de dollars US, 850 milliards de francs CFA.
Alors pour ce projet, le gouvernement ivoirien ambitionne de casser définitivement la chaîne des embouteillages.
Bien sûr, parce qu'à Abidjan, c'est vrai que la circulation est presque impossible aujourd'hui, mais nous avons de grandes ambitions pour Abidjan, parce que pour résoudre l'épineux problème des embouteillages à Abidjan, il faut un système multimodal qui combine en même temps les secteurs routiers, lagunaires et ferroviaires. Au niveau du lagunaire, nous avons déjà libéralisé ce secteur et donné déjà des autorisations à 3 sociétés qui vont démarrer les activités à la fin de cette année.
On parle d'une collaboration entre Français et Chinois. Comment ça va se passer?
Bon, exact. Il y a un consortium de Coréens et de Français et de groupes français pour la réalisation de ce projet. Bon, il y a l'accord entre les parties. Bon, nous, on ne fait que constater ça et puis travailler avec le groupe Bouygues et d'ensemble.
Alors, au plan de la réalisation concrète sur le terrain, le métro sera-t-il aérien ou passera-t-il dans le sous-sol?
Non, il ne passera pas par le sous-sol ni aérien, mais il passera sur les voies normales.
Alors, on peut s'attendre donc à un projet gigantesque qui sera à la pointe de la technologie.
Exact. Tout ce que nous avons vu réalisé par les deux groupes ont vraiment les capacités financières et techniques pour la réalisation. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un projet en BOT que nous faisons, parce que compte tenu du coût important, le modèle de financement que nous avons aujourd'hui au niveau du gouvernement, pour nous, le secteur privé est le moteur du développement économique. Donc, tout ce que le secteur privé peut financer, il faut le faire financer de telle sorte qu'on puisse consacrer les lignes classiques auprès des bailleurs de fonds, des institutions de Bretton Woods et de partenariat avec les différents pays sur les projets d'éducation, de santé et d'amélioration des conditions de vie des populations.
Voilà, c'était Gaoussou Touré, ministre ivoirien des Transports, joint à Abidjan par Jean-Roger Billon. Et au Maroc, 5 jeunes arrêtés à Marrakech risquent la prison pour ne pas avoir respecté le jeûne du Ramadan.
Oui, leur délit, avoir bu du jus de fruits en plein jour dans la ville touristique du sud du Maroc. Et Nicolas Pino a joint Mohamed Nouhi, le président de l'instance marocaine des droits de l'homme.
En tant qu'une ONG qui défend les droits, nous croyons bien sûr de l'universalité des droits de l'homme. On est toujours contre d'avoir un article sur le code pénal qui est l'article 222, bien sûr, qui pénalise toute personne qui déjeune publiquement au mois de Ramadan. On a demandé pendant la discussion du projet du code de supprimer cet article parce que cet article ne conforme pas ni à la constitution marocaine ni aux conventions internationales qui sont ratifiées par le Maroc. Donc nous demandons toujours bien sûr de garantir les droits, que ce soit les libertés publiques ou bien les libertés individuelles, tout simplement pour bien sûr garder la coexistence de toutes les personnes qui vivent dans le même terre.
Mais globalement, diriez-vous que la société marocaine est de plus en plus conservatrice?
Toujours la société est conservatrice. Le rôle, bien sûr, du gouvernement, c'est puisqu'elle a ratifié pas mal de conventions, il a des engagements devant, bien sûr, les Nations Unies, devant les instances internationales. Donc, il faudrait quand même travailler sur le changement des mentalités. C'est ça notre rôle en tant qu'ONG, c'est ça le rôle du gouvernement lorsqu'il s'engage publiquement devant les instances internationales. Donc il ne faut pas travailler avec double discours, que ce soit avec nous travaillons bien sûr dans un projet de modernité, ou bien nous disons, voilà, nous sommes des conservatrices, donc on ne peut pas s'engager comme ça de ratifier des conventions.
Voilà, c'était Mohamed Nouhi, joint à Rabat.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, on termine par cette triste note en musique. L'une des plus belles et grandes voix du Mali s'est éteinte. La chanteuse Bako Dagnon est décédée hier à l'âge de 67 ans. La cantatrice Dagnon laisse derrière elle une carrière de plus de 40 ans, marquée par son attachement aux valeurs traditionnelles de son pays. Elle a sorti plusieurs albums qui mettent en exergue la tradition griotte, ainsi que le Ndonsoya, ou si vous préférez, l'univers mystique des chasseurs. Pour un hommage, Issiaka Ba s'est entretenu avec le producteur de musique Mbaye Boubacar Diarra, qui a collaboré avec Bako Dagnon.
Je suis Mbaye Boubacar Diarra, réalisateur d'émissions, producteur, vice-président de l'association des artistes, producteurs et éditeurs du Mali et président de l'association des producteurs du Mali. Et Bako Dagnon, je l'ai connu il y a très longtemps, depuis qu'on était à la RTM, depuis que c'était Radio Mali, jusqu'à l'arrivée de la télévision, la Radio Mali est devenue l'ORTM. Bako Dagnon est une artiste engagée socialement. C'était le garant d'une tradition et également une bibliothèque et la mémoire de tout un peuple. Elle maîtrisait l'histoire du Mandé, l'histoire de l'Afrique. Elle connaissait l'origine de tous les noms de ce pays-là. Bako Dagnon était disponible socialement. Elle se battait pour les gens. Elle était humble, elle était modeste. Soit pauvre ou riche, petit ou grand, Bako Dagnon se prenait exactement au même niveau.
Et comment est-ce que les gens réagissent au Mali là-bas à l'annonce du
aujourd'hui, les gens ne sont pas heureux aujourd'hui. Elle était un repère pour la culture malienne. Nous venons de perdre un grand repère. Nous venons de perdre une mémoire. Chacun se reconnaissait un peu à Bako Dagnon. Que ce soit les griottes, que ce soit les Datigui, tout le monde se reconnaissait à Bako. Et Bako connaissait tout le monde. Parce qu'au Mali, les gens sont identifiés à partir des noms. Tchara, Koulibaly, Kone, Jawara. Donc Bako connaissait l'origine de tous les noms. Donc elle connaissait tous les Maliens. La mort de Bako a été un grand choc. Vraiment, on n'a pas le cœur à fête aujourd'hui. C'est vrai, c'est le mois de carême. C'est un mois de tolérance, un mois de communion où les gens sont disponibles pour pardonner, pour accepter. Nous avons accepté le décès, mais on est sous le choc de ce décès.
Monsieur Diarra, si vous deviez résumer la carrière, le parcours de Bako Dagnon sur un seul titre, quel serait le titre qui pourrait représenter Bako Dagnon?
C'est-à-dire qu'elle valorise sa ville natale, Kita. Elle valorise l'agriculture. Tigamouyongo représente Bako Dagnon. Tigamouyongo, c'est une des premières chansons de Bako qui a fait le succès de Bako. Mais c'est une chanson qui définit Bako elle-même.
Tout à fait. Je me rappelle de l'époque où c'est sorti, c'était un grand tube national. Voilà. Tout le monde chantait cette chanson, Tigamouyongo.
Voilà.
Et nous allons également la jouer aujourd'hui pour rendre hommage à cette grande dame. Puisse-t-elle reposer en paix.
Salut les amis, ici Roger Moutou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme International Music, Comedy et Country Music. Dans notre segment Country, nous parlerons de l'artiste Garth Brooks. Vos commentaires sur notre page Facebook VOA Afrique. J'attends aussi vos SMS au plus 225 58 92 85 40. C'est le plus 225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. C'est ce soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers de l'armée ivoirienne, dont des ex-rebelles favorables à Alassane Ouattara, ont été inculpés des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Nouvelle attaque au Tchad, des combattants suspectés d'appartenir à l'organisation islamiste Boko Haram auraient tué 26 personnes au cours de ce week-end dans deux villages longeant le lac Tchad.
La Tunisie a annoncé le projet de construction d'un mur le long de sa frontière avec la Libye pour contrer la menace djihadiste.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Présentation Morgane Diriek et Bagassi Koura.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.